Chaque fois que je te vois, je te dis oui, t'es gueux. Dis-moi pourquoi, comment t'es si bonne.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et surprenants à Fantasia. Je me présente, votre animateur, Simon Predge, et pour parler cinéma avec moi aujourd'hui, nous avons autour de la table Olivier Bigonnet.
Bonsoir.
Ah, Éric Arsenault.
Yo.
Steven Lefrançois, hey. Du podcast Séance de minuit.
Salut.
Et nous avons en plus autour de la table la copropriétaire de son enfant, Chantal Roy-Brouillard. Et la réalisatrice Laurence Côté-Collins, la propriétaire de mon corps. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on a un gros show. Bonsoir à tous. Comment allez-vous?
Bien.
Non, on n'a pas le temps. On a fait un calcul. On a calculé le nombre de films dont on aimerait parler aujourd'hui. Et pour que ça rentre dans une heure, on a approximativement 12 secondes par film. Alors, pas le temps de niaiser. Tout le monde est prêt. Alors, top chrono. Prêt? Party!
Ok.
Ça marche pas, là. On va y aller classique, je pense, parce que là, ça rentre pas.
Hey, non, mais nous, on avait une histoire. Moi, puis,
il y avait une cohérence entre moi et Eric. Là.
Moi, là, on vivait quelque chose.
Je pense que je repars tout seul
à soir. Ben non, on fera pas ça de même.
Non?
Ben non, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas grand temps. On va se lancer pour vrai tout de suite. Olivier, il y a un film qu'on a repoussé la semaine passée parce qu'on voulait prendre le temps d'en parler.
Oui.
Et c'est L'inquiétante absence.
Et oui. Donc, L'inquiétante absence qui a été réalisée par Amir Belkaïm et Félix Brassard. Donc, c'est un documentaire, ou selon moi plutôt un reportage, sur le cinéma de genre au Québec. Les difficultés, le challenge à produire, se faire financer au Québec, et surtout, qu'est-ce que le cinéma de genre au Québec? Pourquoi qu'il y en a si peu sur nos écrans? Beaucoup de questions sont abordées ici, donc les gars vont faire leur enquête en interviewant, entre autres, des cinéastes comme Robin Aubert, David Cronenberg, productrice Nicole Robert. Donc, ils font le tour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. J'ai trouvé que c'était un reportage.
T'as de la misère avec ça.
Je l'ai beaucoup plus vu comme un reportage qu'un documentaire. C'est pas que c'est mauvais. J'ai trouvé que c'était très pertinent, tout ce qui était présenté là-dedans. J'ai personnellement trouvé qu'il y avait quelques interventions qui avaient pas leur place, qui ont rallongé ça.
T'as-tu un exemple en tête?
Je vais pas nommer personne.
OK.
Non. Mais c'est sûr que autant c'était intéressant et que c'est important que les gens voient ce reportage-là, c'est très important. Puis moi, de mon côté, je te dirais que personnellement, ce que j'aurais apprécié pour que ça tombe dans le documentaire, c'est que j'aurais vraiment voulu qu'il y ait une narration au niveau des gars. J'aurais aimé ça les suivre dans leur aventure, comme je disais un petit peu plus tôt tout à l'heure, de les suivre avec leur pack-sac. OK, on part de là, on s'en va là, on s'en va rencontrer Cronenberg. Tu sais, voir des backgrounds un peu, parce qu'on les voit pratiquement pas, ce qui donne l'effet du reportage, si on veut. Là.
Ouais.
Puis, il y a Robin Aubert qui commence dès le départ, qui leur demande « Pourquoi tu fais ça? » explique-moi, et puis le précise, je sais que c'est pas prévu dans ton horaire ou quoi que ce soit, mais pourquoi tu fais ce documentaire-là? Puis là, Félix, je crois, va expliquer, mais très rapidement. Pis ouais. J'aurais voulu les voir plus eux autres, voir leur cheminement, personnellement. Moi, c'est mon petit bémol, mais je lui ai donné quand même une très bonne note. J'avais donné, je pense, un 7 sur 10. Je sais pas, vous autres, votre opinion, Eric?
Ben, moi, je vais dire comme toi, c'est important un documentaire ou un reportage, c'est ça, non? Mm-hmm. Je trouve juste que le problème, c'est au niveau du montage, qui est peut-être à retravailler, puis il manque une ligne directrice.
Ligne directrice, c'est
on
ça.
Va dans tous les sens, puis à un moment donné, je l'ai écouté avec mon copain, puis à un moment donné, il me dit, j'ai mal à la tête, là. Là, on est rendu où, là? On parlait de quoi, là? Faut revenir, faut se concentrer. Mais sinon, hyper pertinent comme... Mm-hmm. Comme documentaire.
Ouais, oui, c'est comme un special feature sur un DVD. Un
ouais,
peu, ça me
bon
fait
point.
Des
ouais.
documentaires, des reportages où t'as le réalisateur qui parle, tout ça, mais ça, c'en est plein. Rebooter un après l'autre, ouais. Ça m'a plus fait penser à ça.
Mais au final, c'est comme vous dites, c'est un propos qui est très important. Mm-hmm. Les auditeurs le savent, on a reçu plusieurs invités pour parler justement de ça, la difficulté de se faire financer puis de réaliser du cinéma de genre au Québec. C'est sûr qu'on est un très petit marché, c'est plus difficile. Laurence, peut-être tu ne pourrais, mm-hmm. toi qui es dans le milieu, qui est fait du cinéma au Québec, t'as les chiffres du nombre de films cette année qui a été pris à la SODEC, on parle de quoi là?
Ben il faut savoir que il y a de plus en plus de cinéastes.
Attends une minute, ton micro il marche pas. Tu peux-tu prendre l'autre à côté?
Un, deux.
Je sais pas pourquoi ils se rendent pas, on dirait.
Un, deux.
Ouais,
et voilà. Ok. Donc il faut savoir que au Québec, il y a de plus en plus de cinéastes, de plus en plus de réalisateurs et de scénaristes. C'est comme exponentiel, là, ça fleurit sans arrêt. Et il y a de moins en moins d'argent dans les institutions. Donc au dernier dépôt de la SODEC, il y avait plus de 70 films long-métrage fiction de déposés et il y en a 3 qui ont eu de l'argent. Donc, c'est beaucoup de gens déçus de ne pas avoir de financement. Donc, après ça, quand on va dans le cinéma de genre, je peux comprendre qu'après ça, quand la SODEC a de l'argent pour 3 projets, ben ils vont miser sur des « sure shots », entre guillemets, parce que à Fantasia, les salles débordent, mais au cinéma, en général, à l'année longue, les salles sont plutôt désertes.
Ouais.
Fait qu'ils essaient d'avoir des visions à long terme, marketing, de est-ce que le film va faire le tour du monde, va faire des festivals et va faire rayonner le Québec à l'extérieur. Donc, je peux comprendre, je me fais l'avocat du diable, je peux comprendre que les jurys dans les institutions comme aussi Téléfilm, c'est plus difficile pour eux de mettre leurs mains dans le feu puis dire « Ah oui, on ose le gros film de genre, on ose le gros film d'horreur » ou... Je comprends que ça peut être... On est dans une période, en fait, où le cinéma se redéfinit, le financement se redéfinit. Fait que je pense que, malheureusement, le cinéma de genre est celui qui en souffre le plus.
Puis en plus, je veux dire, le cinéma de genre québécois n'a pas toujours une belle image aussi. Je pense, si on parle des films, comme on parlait avant d'embarquer, Le Poil de la Bête,
oui.
qui a été un flop monumental, mm-hmm. mais pas juste un flop, c'était très mauvais.
Oui, ça, c'était un film médiéval.
Oui, de loup-garou. Mm-hmm. Je veux dire, je suis content qu'on ait réussi à le faire, mais malheureusement, ça regarde mal après pour les suivants qui veulent demander du financement pour du cinéma de genre. Puis ça aussi, ça fait partie du défi. Si la SODEC ose financer le cinéma de genre, puis ça marche pas, ça va prendre du temps avant qu'il en finance un autre après.
Ben, on a peut-être un peu d'espoir, un petit peu avec Les Affamés qui a quand même bien marché.
Ouais.
Puis là, il y a eu toute la question après ça où comment ça se fait que je peux pas avoir ma copie de DVD ou Blu-ray au Québec, puis il faut que je l'achète en Espagne.
Ben, on a un problème de distribution au Québec. Mm-hmm. Tu veux un exemple encore plus gros? Le dernier film d'Arcan, La chute de l'Empire américain.
Oui.
Bonne chance de le voir. Légalement.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle façon de voir notre cinéma, c'est d'aller directement sur les plateformes des distributeurs et presque tous leurs films sont en location à même leur site Internet. Donc, la nouvelle façon de consommer le cinéma, c'est d'aller directement sur le site des distributeurs.
Oui, mais toi, nous, même, je dirais, on les connaît, les distributeurs, mais Henriette, avait la salle, elle sait pas c'est quoi un distributeur, elle.
Ben après ça, il faut qu'elle écrive dans Google le titre du film, elle va sur Wikipédia, puis là, ça va dire c'est qui la boîte de distribution. Puis là, de là, tu vas sur la boîte de distribution. Puis, tu sais, les films du 3 mars, Crystal Film, Séville, ils ont beaucoup, beaucoup, de plus en plus, leurs films sont disponibles en location. Puis là, ben, tu payes, mettons, 3,99 puis tu as le film chez vous pour 48 heures.
genre.
Ça revient un peu au même, sauf que malheureusement, on n'a pas d'endroit où on peut toutes les retrouver. On a oussa.ca qui est sorti de Mediafilm là, pour essayer de te trouver. On fait une recherche d'un film. Oui.
Moi, je m'en sers beaucoup.
De plus en plus. Je l'ai dit, c'est pas encore complet, mais ça va évoluer beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui va nous aider, Henriette, avec la salle, de trouver ces films-là, justement.
Hey, on lui souhaite.
On lui souhaite. Henriette, on pense à toi.
Les boîtes de production aussi, de plus en plus, vont mettre leurs films en location, là, comme la Coop Vidéo de Montréal. Tous ces films, pratiquement, sont disponibles. De plus ça va, plus c'est ça. Il faut chercher à la racine qui a fait les films, trouver les boîtes de production ou de distribution, puis là, les films sont à notre portée.
J'ajouterais un propos qui est d'ailleurs dans le reportage, l'inquiétante absence. T'sais, on a un petit marché au Québec, là. Si vous êtes content quand il y a finalement un film de genre au Québec, encouragez les dons, puis allez pas le downloader. Je sais que des fois, comme l'exemple que j'ai donné de l'Empire, la chute de l'Empire américain, la seule façon de le trouver, du moins il y a deux semaines, quand on a vérifié, c'était en torrent. Même la boîte de distribution ne l'avait pas encore mis en ligne. Donc, je comprends qu'il y a des exceptions, mais soyez patients. Un exemple qui est donné dans le film, c'est Turbo Kid, qui a en partie du financement québécois, puis du financement de la Nouvelle-Zélande. Mais ici, dans notre petit public québécois, on réalise qu'il y a peut-être la moitié qui sont pas allés le voir en salle puis qui l'ont downloadé.
Ça
aide pas.
C'est de valeur, hein, parce que je pense que c'est Isabelle Grondin qui a amené ce point-là dans le documentaire. Écoute, la première de Turbo Kid à Fantasia était huge.
Ah, c'était génial.
C'était huge. Mais après ça, là, quand le film s'est ramassé au cinéma, il n'y a pas un chat qui était le voir. Non. Parce que tout le monde l'a downloadé. C'était un des films les plus downloadés sur Torrent.
Ouais.
Tu sais, fait qu'on, je trouve ça plate. On a beau dire, allez voir les films, payez votre copie, mais...
Il y a aussi le fait qu'en dehors de Fantasia puis le bouche-à-oreille, Turbo Kid n'a pas vraiment eu de marketing. Non. Fait que monsieur et madame, tout le monde qui arrive au cinéma puis qui voit l'affiche de Turbo Kid sont comme, ça a l'air d'un petit film pour enfants, fait que je vais pas y aller.
Mais c'est parce que l'enveloppe pour la distribution puis la promotion est en lien avec l'enveloppe de ton film. Fait que si t'as fait un film à 300 000, t'en as pas d'argent à la distribution. Si t'as fait un film à 7 millions, ben là, il y a un gros pourcentage de ton 7 millions qui est à la distribution. Fait que, tu sais, le cinéma souffre. Moins t'es financé, ben moins t'as de promotion quand c'est le temps de sortir. Puis plus t'es petit, moins t'as de salles. Moi, quand j'ai sorti mon film, il y a 3 ans, j'avais 3 salles de cinéma 2 semaines. Fait que c'est pas beaucoup 3 salles au Québec, là, tu sais. Si t'es en Gaspésie, mon film, tu sais pas, je suis qui, là. Fait que c'est comme ça pour beaucoup de gens, là. C'est un très petit pourcentage du cinéma québécois qui rayonne à grande échelle au Québec.
Pas juste au Québec, au Canada.
Moi,
t'es loin du micro un peu.
Il y a une place à Ottawa que tu peux voir ce genre de film-là. Tu es booké de jouer à une place, c'est au Mayfair. Puis c'est comme le meilleur cinéma dans tout le Canada. Parce qu'ils jouent de tout. Mais sinon, oublie ça, là. Les franco-ontariens, les francophones ailleurs, oublie ça. C'est...
Ouais.
Puis là, je sais, je pars de où je viens. Puis c'est absurde, ça aussi, là. Je pense que le Québec, il gagnerait à être vu par le reste du Canada aussi, là.
Mais c'est pour ça que, justement, un festival comme Fantasia, c'est intéressant parce que c'est le bon moment pour aller voir des films, puis pour profiter de voir des films avec du monde en maudit dans la salle, parce que ça fait toute la différence.
Oui,
vraiment.
Ouais.
Ouais. Mais j'aimerais finir, Claire, l'inquiétante absence avec une question. Aurais-tu une, ne serait-ce qu'une petite graine d'idées qui pourrait peut-être résoudre en partie le problème du financement? Y a-tu des idées qui se brainstorm en ce moment?
Ben là, c'est une grande question, là. Ouais. En 2 secondes, je peux pas répondre à ça. Puis, tu sais, en ce moment, il y a des centaines de personnes qui réfléchissent à ça. Ouais. C'est pour ça que le sociofinancement, le partenariat avec le privé, c'est en hausse. Téléfilm est en train de repenser sa façon de distribuer l'argent. Tu sais, le cinéma est dans un gros tournant existentiel en ce moment avec les salles de cinéma qui se vident, les gens qui sont de plus en plus devant leur cellulaire puis leur écran à la maison. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans 10 ans, on va avoir des vraies solutions, mais que je pense que pour l'instant, on patauge un peu puis qu'on est sur le bord de s'étouffer dans notre caca.
Ouais. Bref, je ah Eric, tu voulais
ben moi chose? J'ai juste une petite mention spéciale.
J'ai dit le mot caca.
C'est de ma blonde ça.
Ben écoute, moi c'est tout cute là, je veux juste faire une mention spéciale à notre ami Marc Boisclair, il va m'aider pour ça qui a une petite apparition de 5 minutes. On devrait l'appeler le géant parce qu'il est comme filmé.
Ouais, ils l'ont fait par esprit, on dirait.
Belle apparition en vue de bas.
Oui, vue de bas.
Mm-hmm. Voilà. J'étais le seul en contre-plongée quand là, c'est pas juste. Il a l'air de huge.
Il a l'air
ouais,
immense.
Ben écoute, félicitations Marc, ta première apparition. Bravo.
Ben, je finirais pour... J'aimerais ça clore là-dessus. Je sais pas ce qui va être distribué encore. De la façon de ce que j'ai entendu, il va peut-être avoir... ça va passer à TV, mm-hmm. mais je sais pas où. Est-ce que c'est Frisson TV? Est-ce du Canal D? J'ai aucune idée, mais il semble avoir un deal qui est en train de se régler pour la TV. On va voir où ça va sortir, mais je vous invite quand même à écouter L'Inquiétante Absence pour les gens qui sont dans le milieu, mais aussi les autres qui sont pas nécessairement au courant de comment ça se passe. C'est quand même une... Même si c'est pas... Même si on a dit c'est pas mauvais là, c'est le montage gagnerait à être resserré, repensé malheureusement, mais c'est, ça le rend pas plus mauvais, c'est
non,
juste
pas du tout. Non, c'est très pertinent là.
Exactement, c'est très pertinent, puis ça nous aide à, c'est pas juste le cinéma de genre, ça nous aide à comprendre la situation du cinéma au Québec en ce moment.
Tout à fait.
Puis pour avoir des nouvelles de ce film là, ils ont une page Facebook, quelque chose où est-ce qu'on peut s'abonner?
L'Inquiétante Absence, ils ont une page Facebook, L'Inquiétante Absence, vous allez le trouver avec le logo d'espèce de calmar là, mixé avec le logo de la fleur de lys.
Ouais,
là.
Fleur de lys, ouais.
Donc voilà, sur ce, ben, on enchaîne. J'aimerais ça t'entendre, Steven. Oui. T'étais pas là la semaine dernière parce que je pense que t'étais en salle ou je sais pas trop. Mais là, t'as vu une couple d'affaires qui t'ont vraiment fait triper. D'ailleurs, tu m'as parlé du film Extreme Job que t'as vu la semaine dernière, justement.
Ouais, c'est pas mal dans mes premières journées du Fantasia, puis je me dis que vous n'aviez peut-être pas parlé, fait que ça me tentait d'enchaîner avec celui-là. Film sud-coréen qui est un savoureux mélange d'action et de comédie, parce que cette année, c'est pas tant l'horreur qui m'a marqué jusqu'à présent, c'est mm-hmm. plus d'autres productions de ce genre-là. Et on suit un groupe d'escouades policières... qui sont focussés dans les narcotiques, qui sont vraiment pourris. À toutes les fois qu'ils tentent de démanteler un réseau de drogue, ça tourne mal, ils sont vraiment cabochons. Et ils se font offrir un dernier coup pour essayer de retrouver leur facette avant que leur section soit carrément fermée. Puis c'est à côté d'un restaurant de poulet frit. Fait qu'ils décident de se mettre là pour essayer d'être un peu undercover. Puis ils vont décider carrément d'acheter le restaurant pour pouvoir rester là à temps plein, puis pouvoir surveiller... les réseaux criminels qui se déroulent en face du restaurant. Sauf le petit problème, c'est que le restaurant va commencer à avoir des clients alors qu'avant ça, c'était raide mort. Fait qu'ils vont décider d'inventer un peu une recette de poulet frit à la vedelette. Il y en a un du team qui va utiliser une recette de sa vieille grand-mère. Puis il se dit, gars, au pire, on va faire ça pour les quelques clients. Malheureusement, ou je devrais dire heureusement, ça va devenir un franc succès. Le restaurant va exploser. Et là, ils vont devoir dealer entre s'occuper du restaurant qui fonctionne bien et essayer de démanteler le réseau criminel, ce qui donne lieu à un film vraiment amusant, c'est divertissant au bout. Un savoureux mélange du mot slapstick qui me plaît vraiment, c'est vraiment bien maîtrisé là-dessus.
Tu jouais gros?
Non, c'est pas tant gros, puis c'est souvent la chose qu'on reproche au cinéma coréen, ouais. C'est que ça, souvent on tombe dans le mélodramatique, des fois c'est trop long. Celui-là, c'est un film qui dure pas tant long, c'est comme 1h50, c'est super bien dosé, l'humour action alterne de façon vraiment fluide, c'est vraiment bien ficelé, puis c'est surtout que on retrouve le même genre de rupture de ton avec ce genre de cinéma-là coréen, dans le sens qu'une comédie très familiale qui pourrait faire rire pas mal tout le monde, mais quand c'est le temps de revenir plus en mode action, les séquences sont assez viscérales, sanglantes, mais écoute, ça, c'est pas mal ce qui fait la réputation de la Corée. Eux, ils n'ont pas vraiment de restrictions.
Ouais,
ou de,
ils se gardent, eux autres.
Ouais, ils se gardent, puis il n'y a pas de limite. Mais non, c'est ça, la galette des personnages sont super attachants, vraiment le fun. Je me suis vraiment amusé du début jusqu'à la fin. C'est pas mal un de mes favoris du festival jusqu'à présent. Je pense que ça a vraiment été un gros succès au point qu'il y a une deuxième présentation. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le 25 juillet ou le 26, okay. Mais cool. C'était déjà sold out, malheureusement, je peux pas le conseiller, mais ça reste à surveiller, honnêtement, ça a été un gros succès en Corée du Sud, justement, puis après avoir vu le film, je comprends, là, c'est vraiment une solide comédie d'action qui m'a vraiment fait divertir.
Cool, Extreme Job, merci ouais. Steven. Moi, j'ai le goût d'entendre parler ma blonde, parce que je l'aime.
C'est lourd.
C'est lourd. Mais non, mais en fait, on a parlé de cinéma québécois. T'es allé voir un film québécois que je dois dire... je cherche mes mots, là, mais... OK. Dès qu'on a vu l'affiche, on a roulé des yeux. Puis ça nous tentait pas de le voir. Puis là, toi, t'es allé le voir, puis t'as eu du fun.
Ouais.
Killer Croc 3D.
Ouais.
Parle-nous de ça.
OK. Ben là, moi, à la base, là, faut que tout le monde sache que je suis une grosse fan de marde.
Ben, c'est pour ça qu'elle sort avec moi, d'ailleurs.
Oh, et, à la porte, là.
Et plus les films sont mauvais, plus j'ai un plaisir à les regarder. Puis pour moi, voir un mauvais film, c'est comme aller voir un bon match de lutte. Puis j'ai encore plus de fun si je peux rire fort, parler par-dessus, m'insurger, reculer, revoir une scène. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai souffert le martyr en même temps. Parce que faut savoir que c'est un film de 98 minutes interminable qui aurait fait un excellent 47 minutes. Donc, c'est le grand classique du réalisateur qui coupe pas parce qu'il tripe sur tout son stock, là. On assistait vraiment à ça. Chaque scène était trop longue.
Ouais.
Tout était slack. Tu sais, ça aurait vraiment pris quelqu'un d'expérience que du beat qui repasse sur le film parce qu'on en aurait plus profité. Fait que moi, c'était la première fois que je rencontrais ce réalisateur-là, Jeff Anormal X. C'est comme un genre de Éric Lapointe sa brosse. Écoute, tu sais, on n'était pas encore rentrés, puis on était à la cinémathèque, puis il se promenait dans le corridor, puis il était comme « C'est plein, tabarnak, oh ben, calice, t'es là! » Tu sais, genre, chaque mot qu'il disait, c'était comme trop intense, là, puis moi, j'aime ça, ça a créé d'envie, mais là, lui, on dirait que c'était juste ça, là, tu sais. Fait que, avant son film, il y a eu un court-métrage, je vais vous en parler après, c'est un autre film aussi qui aurait eu une petite passe de resserrage à faire. En tout cas, whatever, je vais rester sur Killer Cop. Il a passé 10 ans à travailler sur ce film-là. Je me suis demandé où étaient passées les 10 dernières années de sa vie parce que le trois quarts des scènes sont shootées dans un appartement éclairé avec deux néons. Puis tu te dis, ouais, ils ont shooté ça en deux nuits, ça n'a pas rapport, là. T'sais, fait,
ouais.
Mais il y a quand même des vieilles archives épouvantables tournées avec sa i8. À toutes les fois que Jeff est allé en voyage, il s'est collé des copes de café sur lui, puis au milieu des touristes, il crie comme s'il se faisait attaquer par des copes. Fait qu'il a comme fait semblant que ça envahissait le monde entier. Là, genre, mais de façon hyper poche.
Oh boy.
Ça ouais, ben, t'avais pas. Dit justement que ça changeait de... Tu sais, c'était plus la même caméra, fait que l'image, ah, elle change. Tout change.
Ça n'a pas rapport. Là. C'est épique poche. Fait que, ben lui, il s'est dit, tu sais, toutes les fois que je vais en voyage, je vais en profiter pour tourner une scène. Fait que, il n'est pas capable de nous dire c'est quoi le budget de son film. Ça a l'air que ça a coûté une beurrée, mais tu sais, sur 10 ans, on se demande où est-ce que l'argent est allé, parce que faut savoir que c'est des verres en café de styrofoam qui attaquent la terre entière. Donc,
j'ai des frissons.
Fait que, faire ce cours, là, c'est l'histoire d'un petit groupe de Québécois qui habitent une maison de campagne isolée du reste du monde, puis qui résistent aux envahisseurs, qui sont les verres à café en styrofoam. Et c'est comme les seuls survivants. Puis, ben, le but, c'est d'arrêter l'invasion des gobelets qui tuent. Donc, le film se termine sur une fin ouverte, donc on présume qu'il y aura une suite qu'on espère jamais voir. Il y a toute une séquence, parce que, tu sais, toute la promo du film est faite sur le fait que c'est en trois dimensions, fait que j'ai des lunettes ici à l'appui, là, c'est, tu sais, des lunettes classiques rouge et bleu en carton.
Ouais.
Donc, ce moment qui arrive beaucoup trop tard dans le film ne sert à rien à part nous donner mal à la tête. L'effet est vraiment pas réussi, puis ça apporte fuck all à l'histoire.
Je vais quand même préciser que ça, c'est anaglyphe, je pense qu'ils appellent ça, ce type de 3D-là. C'est une vieille technologie, certes, mais ça nécessitait un calibrage des couleurs de l'écran très, très précis. Je me rappelle, dans le temps de Douto, on avait essayé d'organiser une projection comme ça, et pendant un mois, j'ai étudié le calibrage du 3D. J'ai pas réussi à le maîtriser. Ça prend des pros pour bien le calibrer, puis je pense pas que la Cinémathèque s'est bien, bien forcée pour Killer Cop, mettons.
Fait que, ben, écoute, c'était quand même, tu sais, c'était comme un gadget intéressant. On avait toute hâte que ça arrive. Puis quand c'est arrivé, tout le monde était toujours en train de checker si tu finis. On enlevait nos lunettes pour voir, oh non, c'est pas encore fini. Oui, on se finit, cette petite bout-là. Non, c'est pas encore fini. Ça, c'est comme le moment où le chaman et les zombies qui arrivent de nulle part, collectent des verres à café, prennent possession, là, du terrain de camping. En tout cas, c'est cheap à mort. Là, dans la présentation, Jeff, avec toute sa finesse, nous dit hey, toutes les gens qui ont joué dans mon film, c'était tous des bénévoles à 100%, puis ils ont tous été avec moi jusqu'à temps qu'ils se mettent à m'haïr. Fait que ça, c'était sa façon de nous présenter ses acteurs. Donc, à toutes les fois qu'il y avait un acteur à l'écran, je me disais ah, un bénévole. Ah, un bénévole avec une perruque. Et moi, j'ai le fantasme intense d'avoir le film entre les mains et de faire un remontage juste des moments où les bénévoles parlent parce que c'est les meilleurs moments du film. Et là, je vais vous jouer un extrait à peu près comment les gens jouent. Ah, oh, encore toi! Regarde-moi là-bas! T'es pas tout tué encore? Mais non! C'est pas facile! Tu sais, ça...
Là, je vais mettre la toune de gala.
Je dirais même que j'ai surjoué, là. Tu sais, c'est.
T'étais dedans, là.
Ah ouais, là, j'étais over, là. Je pense j'aurais pas fait le final cut de son film à lui. Fait que, à toutes les fois que les bénévoles arrivent à l'écran, moi, j'avais le goût de hurler de joie parce que j'attendais la prochaine réplique avec impatience. Fait que, tu sais, je pense que bien monter ce film-là, c'est un pur bijou. Mais en ce moment, c'est vraiment une marde qui est très douloureuse. Fait que
c'est trop slack.
C'est pour vraiment les gros fans de ce genre de film-là. C'est du mauvais série B assumé. Puis en terminant, le son des gobelets était vraiment gossant. Tu sais, un jouet pour les chiens. Et alors, tous les gobelets parlent avec ce son-là. Oh. Et là, il y a des scènes, des fois, de 5 minutes de gobelets dans le gazon qui courent, genre comme des marionnettes chippies, là, genre animés comme de la merde. Puis là, ils sont comme Fait que là, t'es comme dans le cinéma, puis t'as le goût de te graffiner d'en face parce que tu comprends pas ce que les gobelets disent, puis ça dure beaucoup trop longtemps. Okay. Fait que, mais bref, moi, je donne un 10 sur 10 pour l'expérience douloureuse. Je veux revoir ce film. Simon, t'auras pas le choix de le voir avec moi. Je vais t'attacher dans le divan. Puis on va faire un montage là, des meilleurs moments des bénévoles, pardon.
On verra ça. On va en reparler à la maison.
Voilà. Ah, puis il y avait un film juste avant, un court-métrage, Terreur sur le campus, un film de 14 minutes du réalisateur Alain Vézina, qui aurait fait sûrement un excellent film de 6 minutes.
Ah ouais, OK.
Ouais. C'est, ça aussi, c'était trop slack. Puis le ton qui a été choisi pour le jeu, moi, personnellement, ça m'a fait décrocher. Là, okay. C'était comme surjoué du série B. Je trouve que c'était juste un petit peu à côté. Malheureusement, l'univers était super beau, les décors aussi. Ça aurait pu être un très bon film, mais c'était trop slack. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est juste avant la projection, Alain Vézina, il est devant tout le monde, puis il dit « Si vous vous dites que c'est de la merde ce que vous allez voir, ben dites-vous que c'est pas vos impôts que payez de vos poches. » Fait que ça, c'était le fun parce que on comprenait que tout ce qu'on allait voir, c'était autofinancé. Fait que c'est vrai que, tu sais, souvent, on est fâché. Ah, la Sodec, pourquoi ils ont donné à ce film-là? Ben là, ces films-là, si t'les aimes pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est ces gens-là qui ont payé.
Mm-hmm. Ouais, voilà.
Voilà!
Merci, Laurence!
Ça me fait plaisir!
Éric, c'est à ton tour. De quoi t'as le goût de nous jaser?
J'ai envie de vous jaser de mon coup de cœur.
Ah ouais?
Ouais. The Father's Shadow.
Ah oui, puis t'es pas le seul, je pense.
Olivier l'a vu, moins enthousiasme comme moi, là, ça veut pas dire
Marc
que...
Marc l'a beaucoup, beaucoup
aimé. Oui, Marc aussi. Ouais. Laurent, je pense que t'aimerais pas ça, parce que c'est vraiment lent.
Oh, ouais, les films là, de monde qui parle pas.
Bref, c'est le deuxième long métrage de Gabriela Amaral Elmeda, qui a réalisé Friendly Beast. Est-ce que c'est toi, Steven, qui m'a parlé de ça, ou c'est Marc-Antoine?
Ça doit être Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine, ça me dit rien, ouais.
C'est un film brésilien. Bref, c'est la petite fille d'Alva, qui a 9 ans, qui est interprétée par Nina Medeiros, qui a gagné d'ailleurs un prix pour son interprétation au. Je sais pas c'est quoi le gala ici de Fantasia? C'est
Les Chevaux Noirs.
Qui a gagné meilleure actrice. Bref, elle vit avec son père et sa tante dans un quartier défavorisé de Sao Paulo. Le jour où la tante quitte pour aller vivre avec son fiancé, leur condition de vie commence à se détériorer. Son père, en fait, sa mère, elle, est décédée. Donc, son père travaille dans la construction. Il s'enfonce de plus en plus dans une espèce de dépression, mal de vivre. Et elle, dans le fond, avec l'influence un peu de sa tante qui fait... un peu de magie, mais ça marche pas vraiment. Elle veut ramener l'esprit de sa mère. Écoute, moi, j'ai été sur le cul, c'est quoi de le dire. Quand le film a fini, j'ai fait « Hey, c'est donc bien fucking bon, ça! »
Ah ouais, hein?
Ouais, je me suis dit, elle, c'est comme la... Que je veux dire quelque chose de drôle, de gros, c'est comme un peu la Del Toro du Brésil.
Ah ouais?
Ouais, c'est un beau compte.
À ce point-là?
Ah ben, moi, j'ai vraiment trippé. Mais je sais okay. que je suis très enthousiaste.
Vas-y, continue.
Ouais, puis c'est un beau compte raconté comme par la vision de l'enfant. Elle joue, là, mais tout en sobriété, elle sourit pas vraiment, mais elle vit ça intérieurement, pleine de compassion, résiliente. Vraiment, là, j'ai été épaté par son jeu. C'est rare, ben, pas que c'est rare, ça m'arrive d'avoir peur, là, tout le monde le sait, là, mais
des bandes annonces.
Ben, ah, il fait le saut des bandes annonces.
Je suis pareil, les Simon, deux, l'année passée, c'était l'enfer.
J'arrête pas de dire, Simon passe, je fais un saut, là, tu sais. Mais là, il y a une scène que je veux pas trop parler parce que, bon, la petite fille, elle commence à faire des formules magiques, pis tout ça. Et elle est avec sa meilleure amie. Et ils en font une. Et là, je pleurais et j'avais peur en même temps. J'étais vraiment dedans. Son père interprété vraiment là, en sobriété. Je trouve qu'on a évité les clichés de l'homme en détresse.
Ah ouais, ok.
Ouais, tu sais, qui va battre quelqu'un ou qui va se battre, qui va boire comme un trou. Vraiment, si vous avez la chance de voir ce film-là, j'espère qu'il va sortir. Apparemment, il y a une vague apparemment au Brésil de nouveaux films d'horreur.
Ok.
Ça fait partie de ceux-là. Moi, je suis vraiment enthousiaste. Olivier?
Ouais, Olivier, tu pourrais peut-être
nuancer,
oui.
Nuancer mon propos.
Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Est-ce que je pense que c'est... Écoute, c'est pas... moi, je pourrais dire le fil qui a inventé à couper le beurre. Là. Je veux dire, j'ai déjà vu... J'ai déjà vu des histoires similaires à celle-là. C'est vrai que la petite fille, c'est super intéressant de la suivre dans ses yeux d'enfant. Puis quand je suis en train de visionner le film, ça me faisait penser au film que j'avais critiqué il y a quelques années, Poison for the Fairies.
Ouais.
C'est vraiment les yeux d'enfant, superstition d'enfant, que là, sa tante va comme l'encourager à lui faire croire qu'elle a un don, tu sais, carrément.
Ouais.
Puis moi, tu peux te poser vraiment la question, de quelle façon t'as vu le film? Est-ce que tu... Moi, je le vois vraiment, selon elle, avec la superstition, c'est comme tu parles le moment, là, avec son ami.
Que je veux pas parler,
est-ce
ouais.
que c'est toutes des coïncidences? Ah, est-ce que
c'était terrifiant, ça.
Tu sais, son père, est-ce qu'il est... Il était de l'autre bord de la clôture.
Ouais.
Parce que c'est là qu'il commence à avoir bien de la peine quand il arrive un accident. Est-ce que... Il y a des snippets qu'on appelle de Pet Cemetery.
Okay.
Dans le film de l'original.
Ah, tu sais, moi, je voulais pas en parler parce que je voulais garder la...
Ah non, c'est pas...
Ouais.
C'est,
Il y a un hommage au cinéma d'horreur là-dedans.
Oui, oui. Okay. La petite fille...
Beaucoup de clin d'œil.
Ouais. Elle est beaucoup toute seule à regarder des films d'horreur sur sa télévision. Ouais. Là, je veux dire, personne ne s'occupe d'elle. Là.
Ouais.
Mais oui, j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Lui, écoute, tant mieux.
Moi, je suis...
Lui, il a capoté. Marc aussi a beaucoup aimé ça.
J'aime... Écoute, il y a des images là-dedans. L'image avec la petite fille avec son père au parc...
Oui.
Quand ils veulent être une famille normale,
oui.
C'est brutal.
Oui. Oui, ça marche pas comme ça.
Si quelqu'un n'a pas de frisson en regardant ça, que oui. Vous êtes mort en dedans.
C'est un des gros calibres, honnêtement, cette okay. famille à fantasie.
Moi, écoute, c'est venu me chercher. Oui. Je sais pas si j'avais les hormones dans le tapis ou je sais pas trop quoi, là, mais j'ai
que c'est plus un drame.
Oui, c'est mais.
Ça frôle l'horreur, mais c'est ton interprétation.
Okay.
Puis j'ai hurlé. J'ai fait un saut. Lui, il comprend pas pourquoi.
Non.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une pause avec un casier.
Ouais.
My God. Je me suis excusé auprès de mon chum. Je dis, m'excuse. J'ai comme hurlé dans la face.
All right, cool.
Mais vraiment à voir.
All right. Hey, vous me hypez, les boys. parce que là, moi, je parlerais peut-être de Wretched.
Oui.
J'ai même pas amené mes notes, c'est pas fort. Mais c'est parce que j'avais oublié que je voulais parler de ce film-là. Fait que j'ai rien. S'il y a quelqu'un qui s'attend de sortir le
Attends.
Nom du réal, ce serait cool. The Wretched, en fait, c'est deux frères qui ont réalisé ça. Hein? Je pense qu'il y en a un qui est réalisé, puis l'autre c'est le scénariste, mais je suis pas certain. T'es en train de le trouver, ça sent bien. Je vais faire le synopsis. Il y a Steven aussi qui l'a vu.
Moi, je
Eric
l'ai vu
qui
aussi,
l'a vu. En fait, à la base de l'histoire, c'est un jeune ado qui s'en va passer, disons, l'été chez son père, sur une marina, qui est propriétaire de la marina. Et il va commencer à être très curieux de la voisine. Il y a un petit couple qui loue la maison voisine. C'est un petit couple avec un enfant. Puis il trouve qu'ils ont des réactions bizarres, des agissements bizarres. Puis il va commencer à les espionner et ça vire vraiment fucked up. Là, je veux pas le spoiler parce que ça, c'est un film que vous allez voir éventuellement. Fait que je veux pas aller plus loin. Je vais quand même préciser qu'on est dans les histoires de films de sorcières. On est dans la mythologie des sorcières. sont allés piger dans plusieurs types de mythologie de sorcières pour créer leur méchant. On va l'appeler comme ça, là. Mais j'irai pas plus loin pour ce qui est de l'histoire.
Est-ce que tu veux que juste que je
vas-y.
En fait, c'est Brett Pierce puis Drew T. Pierce, deux frères, ils ont écrit et ont réalisé.
Ah, OK, ensemble. OK, ensemble. Cool. Mais à la base, il y a une critique qui est sortie beaucoup. Vous m'avez demandé si on avait le droit de le dire. Y a-t-il quelqu'un qui veut le dire ou je le dis?
Est-ce que je peux le dire, Steven? Mais ça va être Steven. Je peux te laisser.
Non, vas-y.
C'est ta phrase.
Non, vas-y, c'est correct.
OK,
tu me l'as cité.
Mais juste à voir. En tout cas, en fait, je trouvais que Steven avait mis le doigt exactement dessus. C'est ce qu'aurait dû être Summer of 84 l'an passé.
Ouais.
C'est exactement ça.
C'est justement, un jeune qui espionne le voisin, qui a quelque chose à cacher. C'est un peu ça. On s'en va ailleurs. C'est pas le même film.
Non, du tout. Pas du tout.
Mais effectivement, côté tension, côté ambiance, je pense que, en fait, pas mal tout le monde semble penser relativement la même chose à ce niveau-là. Dans l'ensemble, moi, c'est un film que j'ai vraiment aimé. J'ai quand même vraiment trippé. À la fin de la projection, je suis sorti vraiment excité. J'ai dit, ah, t'as donc le fun!
La première fois, je te voyais excité comme ça après une projection fantasia.
C'est vrai,
c'est vrai, j'y pense, ouais.
Ah ouais, ok.
Ouais.
Mais, mais il reste que c'est pas un film qui réinvente quoi que ce soit.
Non.
C'est un film très classique, pas commun, mais tous les codes qu'il y a dans le film, vous les avez vus 100 fois. Les personnages, j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont peut-être un peu clichés par moment. On n'est pas surpris très très souvent de la réaction de qui que ce soit dans le film, je dirais. Mais c'est un film qui pour moi a été très réussi. Je trouvais qu'il y avait une belle tension. Il y avait les acteurs sont, je les ai tous trouvés très bons. Je trouve qu'il y a un excellent casting. Les effets spéciaux aussi sont très réussis. Sont d'ailleurs à 90%. C'est des
practical effect.
Moi,
la balance que selon leur dire, parce qu'on les a vus au talk show de Fantasia, c'était surtout pour de la correction puis arrondir des coins puis tu sais juste un petit fini. Voilà. Mais toi, Steven, t'en as pensé quoi?
Écoute, moi, j'ai passé un bon moment. C'est le genre de film au Fantasia que, tu sais, entre deux gros morceaux, ça fait du bien. Je veux pas dire que tu mets ton cerveau à off, mais c'est parce que c'est un film qui suit tellement cahier des charges. De A à Z, tantôt tu dis, ah, je veux vous garder la surprise, je veux pas spoiler, mais dès que vous commencez le film, vous savez exactement où c'est que ça s'en va. Ouais. Vous connaissez déjà les personnages puis la plupart des choses, puis en fait moi je le considère un peu comme la version plus accessible de The Witch. En mettant tous ceux qui ont détesté le film The Witch, vous allez adorer celui-là parce que c'est vraiment plus facile d'accès. Puis, par contre, c'est que c'est très bien emballé, puis comme tu l'as dit, pour un film à petit budget, il y a vraiment la gueule d'une grosse production. Ouais. Puis c'est ça que je dis à plusieurs de mes amis, c'est je verrais une autre compagnie le distribuer, sur les grands écrans. Puis ça pourrait se fondre dans la masse, honnêtement, parce que c'est vraiment bien emballé. Puis ça m'étonnerait pas qu'on voit ces deux réalisateurs-là plus tard peut-être réaliser un futur gros film d'un studio. Là, ça m'étonnerait pas.
C'est vrai qu'on sent pas le petit budget du tout.
Non, vraiment pas.
Ouais. L'avais-tu vu, toi?
Non, mais quand je voulais le voir, je pouvais pas, j'avais pas de gardienne. Puis quand Steven y est arrivé, il a dit « J'ai demandé à P, comment t'as trouvé ça? » Puis lui, comment il catalogue les films, c'est... Tu veux peut-être le voir, ça se peut que t'aimes ça, ou dans les cas comme ça, quand c'est le fun, il dit c'est assez le fun que je suis pas mal sûr que tu vas aimer ça. Fait que j'ai hâte de le voir.
C'est
un petit peu comme notre Satan Slave de l'année passée, comme un fun ride qu'on.
Aucunement.
C'est pas
c'est un supérieur, c'est très supérieur par contre là.
C'est supérieur.
C'est un slave, c'est très supérieur.
Okay. Okay.
Moi aussi j'avais
Non non, c'est parce que de celui-là en tant que tel, The Rage, j'ai zéro peur là. Je veux dire, c'est pas un film qui m'a effrayé, c'est vraiment juste j'ai
ça
du fun.
Ça veut dire que moi je vais faire des sauts parce que je fais des sauts
peut-être. En fait Steven était assis en arrière de moi, il m'a dit qu'il a pas vu que j'ai fait des sauts, mais j'en ai fait 4-5 là, tu sais.
Ben moi et toi, on était assis un en face de l'autre l'année passée pour Terrify. Ouais. Puis je me suis fait kicker le banc deux, trois fois. Puis ça donnait tout le temps en même temps que je faisais ça. Fait que ça faisait « Ah! Poc! » À chaque fois.
C'est le genre de film qui rend bien exemple au mois d'octobre durant l'Halloween. Les gens veulent se faire un bon petit marathon de films d'horreur. Ça se glisse bien pour commencer la soirée.
Ouais.
Puis après ça, tu vas être les
un bon film d'horreur sans, qui ne nécessite pas de réflexion.
Non, mais la comparaison avec Satan Slave.
Moi, c'est pas ça que tu m'avais dit. Moi, il m'a dit c'est un genre de Fright Night, mais de sorcière.
Vous avez dit sorcière.
En fait, je fais de la réflexion, avoir eu genre 10-11 ans. Avoir écouté ça, j'aurais capoté.
Ah, oui, moi aussi, j'aurais capoté. Oh, ouais, définitivement.
Ah, c'est sûr, j'ai hâte.
All right. Ben, Oli, t'es hype, on va en profiter. Ça t'attends-tu de faire le suivant?
Oui, oui.
Je sais si tu t'en vas.
J'ai sorti mon petit pépier.
C'est-tu...
Attention. Ben, allez-y, on n'a pas le temps.
OK, donc, mon coup de cœur de cette année, à date, parce que le festival n'est pas terminé.
C'est-tu le même coup de cœur que Laurence?
Non. c'est le film Odd to Nothing, titre original de Oda Sawala, 2018, de Dwayne Balthazar, qui l'a écrit et réalisé, donc réalisatrice. Donc, c'est l'histoire de Sonia, une pauvre thanatologue dans la quarantaine, qui vit seule avec son père vieillissant dans un petit village des Philippines. Est endettée jusqu'au cou, aucun client, pas d'amant, pas d'enfant. Bref, elle se sent seule au monde. Okay, puis,
comme Corneille.
Ah, mon Dieu.
Excuse-moi.
C'est le genre d'affaire que Simon dirait normalement. Puis, t'as-tu vu, il l'a pas dit.
Mais non, mais on a Eric Astor, l'a engagé pour ça. Comme ça, moi, je peux relaxer.
Fait, tout le monde va avoir seul au monde dans la tête. Excuse-moi.
Donc, c'est une nuit, le cadavre d'une dame âgée déposé sur le pas de sa porte sans explication. Donc, et celle-ci va entretenir une relation très particulière avec la dépouille. Donc, depuis celle-ci est arrivée dans sa vie, les affaires vont bien pour sa business. Elle reprend confiance en elle, reconnecte tranquillement avec son père. Est-ce que c'est de la bonne fortune ou de la pure coïncidence? Et combien de temps ça va durer. Donc, j'en dirai pas plus.
Tu l'as bien résumé.
Donc, ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, OK, des Philippines, qui portrait d'une dure réalité dans les pays sous-développés. On parlait de Father's Shadow tout à l'heure, là. C'est la même chose. Donc, c'est pauvreté, essayer de joindre les deux bouts. Donc, c'est une histoire qui est j'ai trouvé, à mon avis, extrêmement touchante, qui porterait vraiment comme une femme dans la quarantaine en pleine dépression, qui croit plus du tout en la vie, là. Donc, paradoxalement, avec son métier d'embaumeur, l'actrice, moi, j'ai tout simplement trouvé formidable, j'ai adoré, on peut juste ressentir de l'empathie pour elle, écoute, j'ai trouvé son jeu
arrête
parfait.
De cogner sa table.
la réalisation est soignée avec des plans très précis qui racontent une histoire, donc les vestiges du passé dans des plans, des belles images, où pour moi, tous les objets que je vois qui sont placés sont là pour une raison.
Ah oui.
Donc, La cinématographie est sublime aussi, j'ai trouvé.
Sublime, c'est le bon mot.
C'est très, très beau. On ignore aussi dans quelle époque on est. Okay?
C'est vrai.
On se situe soit entre les milieux des années 80 à aujourd'hui. Pourquoi? Encore une fois, c'est extrêmement pauvre comme environnement, donc on peut pas juger. À part, bon... Des petits indices, exemple, bon, il y a une radio à un moment donné, une vieille radio, il y a un Walkman, mais c'est tellement pauvre.
Le Walkman cassette, là.
Le Walkman cassette, là. Fait que tu l'as-tu depuis des années parce que t'as pas une Christitienne. Tout le monde est habillé pauvrement, donc tu le sais pas, donc c'est une œuvre intemporelle pour moi, puis j'aime ça quand un film est capable de faire ça. Donc, la réalisatrice, moi, j'ai trouvé qu'elle a fait un travail remarquable, probablement avec un budget médiocre.
Ah, ça, c'est sûr.
Donc, c'est mon coup de cœur jusqu'à présent, Fantasia. J'ai été extrêmement touché parce que j'avais fait un petit comparatif. Là, je vous dis, l'histoire est pas du tout la même, là. OK, mais avec The Eyes of My Mother, où...
Ben, c'est une relation quand même avec une personne puis un cadavre.
Avec un cadavre. Donc là, on tombe pas dans l'exploitation ici, on tombe pas dans de l'horreur cheap ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un film d'horreur.
Non.
Il y a un cadavre qui est là, mais tout ce que ce cadavre-là...
C'est un personnage en soi.
Exactement. Là, puis ce qu'elle fait avec, même si, exemple, bon, on tombe pas dans l'exploitation, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Comment on dit ça? Desecration ou quoi que ce soit. Ce que ça apporte, ce cadavre-là, dans cette maison-là, pour elle, son père aussi. Et le fait, il y a une scène à un moment donné où elle a peur de perdre son cadavre. Il faut que quelqu'un vienne le chercher. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, comme, je vais être seul au monde. J'ai trouvé ça hyper intelligent. J'ai adoré son film. Je l'ai, bien entendu, quand j'aime quelque chose, quand j'aime un acteur, une actrice, une réalisatrice, je m'en fous. Je les trouve sur Facebook. Je l'ai trouvé. puis j'ai dit, hey, félicitations, sérieusement. À date, t'es mon coup de cœur. Je lui ai dit, je parle de ton film ce soir. Puis elle s'est dit, oh mon Dieu, merci. On a juste des beaux commentaires. Merci, merci, merci. L'actrice a répondu aussi.
Ah, oh, cool.
Non, moi, quand j'aime, j'aime pour vrai. Puis je visais dans mon coin, là. Tu sais, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ce film-là. Toi, t'en as pensé quoi?
Ah, je suis comme toi. À date, j'ai pas vu autant de films que vous parce que je suis très occupé. Mais à date, je dirais que c'est aussi mon coup de cœur. Toutefois, je lui accuse quelques longueurs au départ. On installe... Est-ce qu'il y a, juste moi puis Laurence ici qui a vu Chanson du deuxième étage, film suisse?
Oh, hey, j'ai vu ça.
Pas suisse, suédois.
C'est une fois.
Il y a un concept dans ce film-là que toutes les scènes, la caméra est bottée dans le plancher et on ne bouge pas la caméra. C'est pas ça pour toutes les scènes dans Odd to Nothing, mais je dirais pour au moins 75 à 80%, la caméra ne bouge pas. On a un plan.
C'est des plans.
On a un plan sec qui pourrait être une toile en soi, tellement que c'est beau. Puis, d'attitude, toute se passe comme ça. Il n'y a aucune musique, sauf quand elle met, je pense qu'elle met la radio à un moment donné ou son Walkman. Mm-hmm. D'attitude. On est dans. C'est un film très sobre. On n'est pas. Il n'y a pas d'action, là. Aucun moment, tu as de l'action.
De tension, quoi que ce soit, non.
Non, du tout, du tout. On n'est pas comme ça. On est tout dans les émotions qui se vivent à l'interne. Elle ne met pas nécessairement de mots dessus. Fait que c'est. Ça, c'est pas un film qui va être pour tout le monde. Laurence, elle me regarde. Je l'ai regardé en screener. Par manque de temps, puis au début, la première partie, puis moi aussi, j'étais d'accord avec elle, il se passait rien, c'est bien plate, qu'est-ce qu'on regarde, mais à un moment donné, ça s'enclenche sans s'accélérer, puis on s'attache au personnage, on embarque, puis on tripe, c'est vraiment un beau voyage mélodramatique, c'est un drame psychologique,
oui.
Mais c'est vraiment beau et touchant, moi j'ai... adoré Odd to Nothing. C'est dans mes coups de cœur, moi aussi, cette année. À date, je dirais que c'est mon top coup de cœur cette année.
Ouais, moi aussi.
Un film qui ne plaira pas à tout le monde de par sa lenteur, mais film vraiment magnifique. Pour les fans du macabre, en fait. Moi, à un moment, je pense que j'ai tort, OK? J'ai quand même tort, mais à un moment, ça m'est passé par la tête. J'ai dit, ah, c'est presque le Amélie Poulain pour les fans du macabre. Parce que par la façon que la fille elle vit sa tristesse puis son mal de vivre, puis qu'au lieu de le vivre à travers des photos ou des petites affaires mignonnes, ben là elle vit avec un cadavre. Mais c'est pas ça du tout là. Faut
non,
pas
non,
penser
non,
que c'est
non,
dans
non,
la Amélie Poulain.
Boy, non, quand
mais
même.
Mais pendant un moment ça m'est passé par la tête.
Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a ta tête là.
Mais je te parle du je te parle du personnage.
Pas du tout.
Je te parle du personnage. En tout cas, mais je l'ai dit aussi ça m'est passé par la tête parce que le personnage principal, ça m'a fait penser à ça à un moment, mais pas le côté cute, mais le côté émotion intérieure, ça m'a fait penser à ça, mais dans la réalité, non, c'est un peu plus complexe que ça. Faudrait qu'on enchaîne, hein, le temps, ouais. C'est cool, puis là, je veux parler avec Laurence, parce qu'on est allé au Fantastic Weekend du cinéma québécois qui est organisé par Rémi Fréchette qu'on a interviewé déjà, parce que tu présentais un film, Laurence, tu présentais ton film, le court-métrage, Deux poules et un tricycle.
Un tricycle et deux poules.
Excuse-moi. Un tricycle et deux poules.
Oh my God. Je vais te demander de quitter le lot.
Après Amélie Poulain, ça c'est la goutte de
trop. Ça c'est la goutte de trop.
Fini, là,
les valises se font ce soir.
Bon, ben je coupe mon micro à l'instant. Je vous laisse continuer. Non, mais j'aimerais quand même que tu nous présentes c'est quoi ce film-là, dans quel contexte il a été fait?
Rapidement, Un tricycle et deux poules. Ça s'est fait à Regard sur le court-métrage à Chicoutimi, un des gros festivals de cours au Québec, assez prisé. Et cette année, c'est le 20e anniversaire de Kino, le mouvement Kino. Pour ceux qui connaissent pas ça, allez sur kino00.com. Donc, c'est ça. Kino a 20 ans et j'ai été la réalisatrice choisie pour rendre hommage à Kino. Donc, je suis puis aller faire un film en 72 heures au festival. Donc, on était présenté à l'ouverture du festival et notre film était présenté 72 heures plus tard en clôture du festival. Donc, moi, je suis montée là avec deux acteurs, Claude Laroche et Carmen Sylvestre, et j'ai Rémi Girard, qui était le porte-parole cette année du festival, qui a fait un caméo dans mon film. Donc, on est monté au festival en train. On a écrit le film à botch dans le train. Puis, j'avais plein de contraintes. Il y avait des contraintes du public. Donc, on m'imposait un lieu qui a été un buffet chinois. On m'imposait un objet, c'était une toile.
Particulièrement laide avec un gros pénis.
En fait, il faut préciser que c'est un artiste local, que je n'avais pas le droit de rire de la toile.
Oups.
Et que c'était un singe bien membré. J'avais aussi, le lieu, la toile, le titre qui était imposé. Et quand Jarrett a présenté ma gang sur scène, il nous a remis une clé USB puis il a dit « Hey, on vous donne une quatrième contrainte. » C'était des chants de gorge inuit d'une artiste canadienne à rajouter à la post-prod. Donc, ça l'a fait mon affaire parce qu'on faisait tellement un film what the fuck que c'était assez simple à intégrer. Donc, c'est un film super drôle. Moi, je suis bien contente d'avoir fait ça. On a tourné ça 100% dans un centre d'achat et un buffet chinois. Et c'est un party de l'an 2000.
Ouais, c'est ça. C'est une date d'un couple assez âgé à retraite qui font leur date à l'an pour les festivités de l'an 2000.
Dans un buffet chinois.
Dans un centre d'achat. Comme s'il y avait des gens qui allaient fêter l'an 2000 d'un centre d'achat cheap de région. C'est tellement drôle.
Et Rémi Girard, c'est comme le propriétaire du centre d'achat qui fait le décompte de l'an 2000 à l'intercom du centre d'achat.
Ah, c'est tellement hot comme
moment.
C'est
le bas fond du party. Genre, tu voulais tout vivre sauf ça à l'an 2000. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film-là. On a ri énormément. Et je suis contente parce que c'était censé être un film éphémère. Puis finalement, il va peut-être être présenté à 2-3 endroits au courant de l'année, dont à Fantasia. Et malheureusement, en ce moment, il n'est pas disponible comme ça facilement. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui voudraient voir ce film de 11 minutes, vous avez juste à m'écrire sur Facebook ou à passer par Predge qui nous mettra en contact. Puis je pourrais vous donner un petit lien caché avec un mot de passe.
Yes, gâtez-vous.
Oui, moi, merci. On a vu plein d'autres films aussi dans
mais
cette
c'est
projection-là.
Ça, c'était la projection sur le thème de l'amour. Hey, le temps, c'est cool, on va peut-être terminer avec ça. Mais c'était sur le thème de l'amour. On avait 5-6 courts-métrages.
8.
Oh, tabarnouche. 8 courts-métrages. Il y en a peut-être que j'ai essayé d'oublier, d'ailleurs. Mais je m'attendais à une soirée peut-être en humour, en douceur, en kitten, en romance. Puis finalement, c'était pas ça du tout. Le trois quarts des films étaient très déprimants.
Lourd et trash aussi.
Ouais,
là,
trash, lourd. Mais il y en avait des très bons, mais c'était un peu fracturé comme projection. On a vu un film que j'ai quand même trouvé très beau visuellement, bien le fun, même s'il a fallu qu'on s'explique après. Puis justement, Laurence, t'es allé chercher des infos. Je veux parler du film Le Jet. Peux-tu nous en parler?
Alors, Le Jet, c'est un film qui a été fait dans un cabaret Kino. Hein?
Ah, OK.
Vous ne connaissez pas Kino? Kino00.com. Donc, un cabaret Kino, c'est des jams, c'est des cinéastes qui font des films en 72 heures ou 48 heures puis qui projettent leurs films devant le public. Donc, Ève Dufault a réalisé ce film, Le Jet, qui est une adaptation d'une nouvelle avec un auteur avec qui elle travaille sur un long métrage en ce moment. Donc, l'idée, pour faire une histoire courte, c'est que c'est des gars... c'est une fille dans une salle de bain qui est enfermée puis qui espionne des gars qui vont faire pipi à l'urinoir. Donc, c'est comme une fille qui est obsédée par le pipi des garçons. Alors, ça prend une tournure un peu artsy et on voit des jets de pipi dans tous les axes
avec des éclairages.
Et l'idée, c'était d'illustrer de façon artistique le jet de pisse masculin. Et c'était aussi de mettre de la lumière qui pouvait nous rappeler les fontaines de centre d'achat. Et on voit plusieurs grosses faces de gars en close-up qui font pipi.
Dont un.
On voit des jets et on voit des grosses faces. Et on a vu la grosse face de Julien Bernatchez.
Ah oui, qui anime d'ailleurs des sédérés ici même à Choc.
Voilà. Donc, j'ai contacté Julien et j'ai fait une entrevue de fond avec lui. Je lui ai demandé, est-ce que tu pissais vraiment quand on était sur ton visage en close-up? Il m'a répondu non, je suivais uniquement les directives. Et je lui ai demandé, est-ce que tu pissais vraiment? Il m'a dit non. Et d'ailleurs, toutes les autres personnes n'ont pas fait vraiment pipi réellement. Il n'a pas pu me répondre à savoir si les jets que l'on voyait en gros plan étaient vraiment des jets de pipi. Donc, ça, c'est à suivre. Et je lui ai demandé...
une chance qu'on ait ça.
Et voilà. Et voilà. Et je lui ai demandé...
est-ce à quoi que, il passait, je pense.
Oui, ben ça, oui, c'est ça. Puis je lui ai dit, comment as-tu aimé le film? Et il m'a répondu, je ne l'ai pas vu encore.
Ah.
Alors, voilà, c'était mon entrevue de fond avec Julien.
Merci, Laurence. Super. Il nous reste presque plus de temps, mais je sais exactement de quel film on pourrait parler avec le court laps de temps qu'on a. Steven, t'es-tu capable de nous présenter It Comes en 2 minutes?
Oh my God, en 2 minutes.
Ah, ben non, ben, façon de parler, là. Ben, c'est parce que tu nous avais justement présenté le film comme quoi que c'est un film à punch qui est difficile à présenter.
Ouais, c'est l'équivalent de Come to Daddy où que tu peux pas trop en discuter à cause des nombreux twists que le film regorge. Mais ça, c'est le nouveau film de Tetsuya Nakashima, réalisateur de The World of Kanako, qui est disponible sur Shudder. Si vous avez jamais vu ça, c'est un must. Et aussi de Kamikaze Girl, qui est un de ses populaires également. Et ça raconte l'histoire d'un jeune couple qui vient tout juste de se marier. Et le jeune couple a tout pour être heureux. Le père a son blog qui fonctionne très bien, qui parle de sa vie, puis sa femme est enceinte justement. Fait toutes les choses se déroulent super bien. Puis une bonne journée à son lieu de travail. Son meilleur ami va lui annoncer qu'il y a quelqu'un en bas de l'immeuble qui voudrait lui parler, il y aurait quelque chose à lui dire. En allant voir en bas de l'immeuble, il va se rendre compte que juste personne qui est là, puis son ami va lui dire que cette personne-là voulait tout simplement lui dire que elle voulait parler à Shisa. Puis Shisa, c'est le nom qu'il comptait donner à sa petite fille qui est encore dans le ventre de sa femme. Et une minute après, son ami meurt de façon surnaturelle devant lui. Après ça, on va suivre ce
couple. Éric a déjà peur.
Ensuite, on va faire un bond de 5 ans plus tard et on va suivre ce couple-là avec leur enfant qui est plus grand, qui sont en train de vivre des expériences surnaturelles avec un esprit qui se fait surnommer It. Ils vont faire appel à une espèce de punk bomb exorciste qui va essayer de venir les aider. Il va s'en suivre des choses complètement what the fuck. C'est pas mal la seule façon que je peux le plus résumer, mais c'est un film qui se veut G-horror traditionnel. C'est juste que le gars déconstruit le G-Horror et ça fait du bien avec les G-Horror qu'on a eu cette année. Sadako qui était pourri, qui était le film d'ouverture de Fantasia, celui-là vraiment il arrive à nous surprendre avec une structure complètement imprévisible avec des personnages qui au destin imprévisible.
Tu peux pas demander à
Steven
de faire ça vite, il est pas capable.
Je sais
non, mais c'est pas
fini. Mais pourquoi qu'il y a de la musique qui joue?
Ben là, parce que c'est la fin de l'épisode. Pourquoi vous trouvez Steven?
C'est parce que ça glisse dans mes écouteurs. C'est mon punk, c'est un signal de radio.
Mais voyons, on dirait que moi, je fais pas 5 ans, tu fais de la radio.
Non, mais c'est parce que ça glissait depuis tout à l'heure. Puis comme là, je t'ai dit, j'étais comme mes écouteurs sont
Steven. Excuse-moi, Steven. Tout le monde en sait.
Tout ça pour dire que It Comes est un film incroyablement imprévisible et intéressant, riche et dense. C'est un film qui traite de parenting au Japon. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis identifié à tout ça. Et les moments horrifiques qui parsèment le film sont de façon complètement psychédélique qui rappelle beaucoup Ouzu, qui est un classique du cinéma japonais.
Oui.
C'est vraiment dans les mêmes branches. Fait qu'honnêtement, c'est un film qui m'a conquis du début jusqu'à la fin.
Wow.
Qui a divisé également. J'ai entendu des gens sur
le oui, que t'as vraiment déçu.
Qui était vraiment déçu. Moi, c'est tout le contraire. Fait que, I guess, si vous embarquez ou pas dans la ride, ben moi, c'est vraiment un film qui m'a satisfait. Fait que je vous le conseille fortement.
Nice. Cool. It Comes. Mais merci, Steven. Merci à tout le monde, d'ailleurs. Il y a plein de films qu'on va parler éventuellement. On n'a pas eu le temps encore. On n'a toujours pas parlé de Phantom of Winnipeg et Phantom of Paradise 8, Joe Bob Briggs, je voulais parler de la conférence Our Redneck Saved Hollywood. On n'a pas parlé de Knives and Skin, Porno, Jesus Shows You the Way to the Highway, One Bedroom, Incredible Shrinking Weekend, Bliss, Dance with Me. Va falloir remettre ça au prochain épisode.
Et
merci les boys, merci Fantasia.
Est-ce que t'es dans la thématique comme la semaine passée avec Swallow?
Exactement.
Concert.
Même si ça a été très bref parce qu'on était serré dans le temps, on a terminé avec une chanson des années 90, Kitsch, Swallow de Bush. Je me suis dit qu'on pouvait enchaîner comme ça tout au long du festival. J'ai choisi aujourd'hui Our Lady Peace.
On garde ça.
Probablement que la semaine prochaine, on irait avec Incubus ou je sais
Moist.
Pas quoi.
Moist.
Ça serait
Moist.
Bon ça.
Oh my God.
Tant qu'on met pas de Collective Soul, on va être correct.
Mais Moist.
Hey, ben, merci tout le monde. Merci Eric. Merci Laurence. Merci Olivier. Merci Steven. Merci Chantal d'être jointe à nous. C'était le fun. Et merci à moi-même parce que des fois, il faut se le le dire aussi qu'on fait bien les choses.
Merci, Simon. On se revoit, Fantasia.
Ben oui, donc encore un épisode sur de critiques la semaine prochaine. Ça risque d'être très cool. On a encore plein de bons films qui s'en viennent. Merci de suivre et pitchez-vous voir des films. Il reste encore des films à voir. Ça se poursuit jusqu'au 1er août. FantasiaFestival.com. Merci, puis on se laisse avec la voix mélodieuse, mais dont on s'en serait passé, de Our Lady Peace. Oh, bonne semaine. Let the world subway.